Salut, bienvenue sur La Courte Échelle, radio anticarcérale, sur Radio Galère 88.4 FM. On est tous les dimanches de 19h30 à 20h. Vous pouvez nous appeler, que ce soit pendant l'émission ou à d'autres émissions, au 04 91 08 28 10. Je répète, 04 91 08 28 10. Vous pouvez nous écrire aussi au 12 rue François Simon, 13003 Marseille, La Courte Échelle, Radio Galère, et nous envoyer un mail à la-courte-échelle@riseup.net. La-courte-échelle, sans accent, @riseup.net. Alors aujourd'hui, il y a Charlie.
Salut.
Liane.
Coucou.
Joël.
Salut.
Et moi, Syl.
Ah, tu veux que je parle? Ça y est, t'as fait ta présentation. On attendait un appel. Si le copain peut nous appeler, c'est super. Bon, après, il est au centre de rétention, donc il y a toujours des aléas. Peut-être ce qu'on peut commencer à dire, c'est donner des nouvelles d'Arles, si ça vous va, à la centrale d'Arles. Donc à Centrale d'Arles, un truc nouveau est apparu, c'est les tasers. Les tasers sont en test donc, dans les coursives de la Centrale d'Arles. C'est un test qui existe depuis un mois, deux mois, et qui risque fortement de s'appeler à se généraliser. Et du coup, c'est un truc assez grave. On va rester vigilant là-dessus, et puis ça rappelle aussi que l'armement en fait est de plus en plus lourd en prison. On peut parler par exemple des LBD qui ont été autorisés dans les coursives des prisons d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est souvent à la pointe, le Lyon et compagnie, là c'est souvent à la pointe en termes d'avancée fasciste en France. Et du coup le centre de rétention de Lyon, c'est souvent là où vont être testés des trucs, et pour les prisons pareil, avec les LBD. Et je crois qu'on est en train de recevoir l'appel de quelqu'un en centre de rétention. Et bon, est-ce qu'il est OK pour parler tout de suite?
C'est OK pour toi de parler tout de suite? Est-ce que c'est OK pour toi de parler maintenant?
Donc c'est un prisonnier du centre de rétention de Marseille qui va peut-être appeler avec d'autres copains, ça je n'ai pas bien compris, mais voilà. Bon. Et donc, on va le basculer en direct. Est-ce que tu nous entends?
Oui, oui, je vous entends.
Super. Eh bien, bonsoir.
Bonsoir.
Vas-y, présente-nous un peu où est-ce que t'es, qu'est-ce qui se passe.
Là, actuellement, on est au centre de rétention du CRA du Canet, à Marseille. C'est vers Bougainville. Et nous, on souhaiterait parler des conditions de vie ici, au centre de rétention. Parce que la vérité, ils nous maltraitent beaucoup. Les conditions de vie sont, franchement, sont dégueulasses. Désolé du terme. Ils s'en foutent de nous. Ils nous laissent comme ça. On est beaucoup. Il n'y a pas de place. Il y en a qui dorment par terre. L'hygiène, on n'en parle même pas.
Il y a une maladie, là, ils sont dit, on ne fait rien, on appelle que les pompiers.
Non. Voilà. À chaque fois, on les appelle pour que des gens qui sont malades, il y en a qui se paillent les veines et tout, on les appelle, ils viennent jamais. On est obligé de déclencher l'alarme incendie pour qu'ils viennent, juste pour qu'ils viennent prendre le gars pour le ramener à l'hôpital et tout, parce que le mec, il est par terre, il bouge pas.
Et ouais. Ouais. Et du coup, l'accès aux soins, il est impossible, quoi.
Là, il y a le médecin, chaque lundi, il y a le médecin. Ouais. Il parle, parce qu'il y a tout le monde, il y a toujours du monde là. Il parle mal avec les gens, etc. Ouais.
Le médecin, il est désagréable. Le médecin, en fait, ils ont une unité de médecine, mais ils font pas, par exemple, pour un rendez-vous dentiste, psychologue, tout ça, ils ont rien.
T'attends un mois pour que tu sortes à l'hôpital de Marseille.
Ouais. Pour aller à l'hôpital, on est obligé d'attendre un mois, des deux mois. Ils nous donnent que des cachets, en fait, pour...
Et ouais, voilà. Il veut juste maintenir les gens en survie le temps qu'ils soient expulsés, quoi.
Par exemple, il me donne là, l'infirmerie, il me donne parazipam. C'est un truc de fou, là, mais rien à voir. Il y a les gens, ils ne mangent pas les trucs comme ça, tu vois. Là, l'infirmerie, il y a quelques parazipam et diazipam.
Ouais. Ils nous donnent des cachets, en fait, pour dormir, pour voilà, des doliprane, des. Voilà. des cachets que rien à voir avec leur traitement qu'ils avaient quand ils étaient en prison ou quand ils étaient dehors, quoi.
Voilà. Et ouais. Mais même en prison, de manière générale, c'est assez dur d'avoir des accès aux soins et le meilleur.
Non, en prison, c'est mieux qu'en prison.
Mais c'est quand même surtout dehors qu'on a une bonne santé. Il n'y a pas de santé compatible avec l'enfermement de manière générale. Et effectivement, dans le centre de rétention de Marseille, c'est quand même hardcore là ce que vous racontez.
Franchement, il faut voir pour y croire aussi comment ils font, comment ils traitent les gens. Moi, je vous mens pas, monsieur. Moi, ça fait 23 ans que je suis en France et ça fait 23 ans que j'essaye de régulariser ma situation. J'ai 4 enfants ici. Ma mère, elle est française. Mon père, il est en France. Il y a toute ma famille ici. Juste pour un truc que le préfet m'a enlevé mes papiers parce que j'ai fait de la prison. Ils me disent que je suis un danger pour l'ordre public.
Et ouais,
alors, ma plupart des condamnations, c'est des délits routiers. Après, j'ai payé ma peine, j'ai fait ma peine.
Mais c'est ça, c'est double peine, en fait. C'est-à-dire que ouais, non seulement tu as été jugé au pénal pour le truc que tu as fait, tu as fait de la prison, mais en plus, après, le préfet, qui n'est pas un juge, hein, on le rappelle, le préfet rajoute l'interdiction de territoire. Et est-ce que tu étais au courant que tu allais te retrouver en centre de rétention?
Justement, j'allais vous dire ça. À ma sortie de prison, moi, je pensais que j'allais être libérable, comme tout le monde. J'arrive et tout, et arrivé au greffe, ils me disent « Voilà, monsieur, vous allez patienter un petit peu, on va vous mettre le bracelet électronique. » Mais j'ai dit « Mais monsieur, je suis libérable, là, j'ai pas demandé de bracelet, moi. » Et en fin de compte, ils essayaient de gagner du temps pour que les agents de la PAF viennent me récupérer, en fait.
Ils t'ont pris directement à la sortie?
Ouais, ils m'ont pris directement, ils m'ont ramené ici au centre de rétention, ils m'ont menotté. Il y avait ma famille devant la prison, il y avait mes enfants, il y avait tout le monde.
C'est dur.
Ouais, c'est dur. Et c'est pareil pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui sont ici, des sortants de prison. Et à chaque fois, ils nous font ça. Voilà.
C'était quelle prison? C'était Luynes?
Ouais, moi, c'était Luynes. Ouais. Mon collègue à côté, il était au Pointé.
Nous, on était au Pointé.
Ok. À Avignon, ouais. Donc.
Ouais, à Avignon.
Et c'était pareil, ils t'ont ramené au CRA direct.
J'ai des certificats, j'ai un dossier médical, j'ai l'hernie discale, etc. J'ai des arts de lance. Mais là, ça fait 2 mois, il me reste 5 jours pour 2 mois, pour 60 jours. Ça fait 2 mois que je suis là. Nationalité algérienne, tu vois, je suis 2 mois là pour rien, tu vois. Pour rien.
Bah ouais.
Ils me connaissent tous, j'ai un papier d'Allemagne, etc. Ils m'ont lâché pas, ils m'ont dit, tiens, brage 30 jours, jusqu'à le 17 avril. On en parle. En fait, ici, ils gardent les gens. Il les garde 60 jours. Au bout de 60 jours, en fait, il les relâche, quoi.
Ah, y a même certains qui les prolongent jusqu'à 90 jours, ils les prolongent encore.
Ouais, après, nous, on n'a pas vu... après, je ne sais pas si vous le dites, nous, on n'a pas vu...
Il n'y a plus de consul, là.
Parce qu'apparemment, il n'y a pas de consul, et le consul, il ne délivre pas de laissez-passer, donc il les garde, il les amène à l'aéroport.
Le consul d'Algérie?
Hein? Ouais, le consul d'Algérie, voilà.
On espère que ça va continuer, mais malheureusement, là, il y a eu un rendez-vous récemment entre Macron et le consulat algérien.
Ouais, on est au courant. Il y a un risque, quoi.
Il y a le 19, c'est le mois, 19, le 19.
Ouais.
Le 19, ils doivent se rencontrer avec l'Algérie.
Ils doivent se rencontrer, je crois, le 19, ouais, ce mois-ci.
Ouais, ils risquent de parler de ça, quoi. Ils risquent de parler de la facilitation des expulsions, quoi.
Mais je dis, s'il n'y a pas de passeport, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas au bled. On est là, c'est mon... Ouais,
parce qu'il y en a, ils n'ont pas de passeport et quand il n'y a pas de passeport, ils sont obligés de délivrer un pass. Et le consul, je sais pas s'ils vont reprendre ou... On n'en sait pas, en fait. En fait, il y a des départs pour l'avion, ils les amènent jusqu'à l'aéroport. Et on peut refuser hein, l'avion. Du moment que le pilote dit non, il ne monte pas dans l'avion, ils sont obligés de nous ramener ici. Et après, c'est reparti pour 15 jours.
Il faut avoir la chance de tomber sur un pilote qui accepte de ne pas laisser monter, quoi.
Ouais, voilà. On n'a pas de caméra pour filmer et tout. Moi, j'aurais bien aimé. On a fait une vidéo et tout, mais bon, on voit mal. Et le téléphone, c'est pas trop de bonne qualité. Et voilà, on a fait ce qu'on a pu. C'est interdit.
Mais du coup, la personne qui était au Pontet, qui s'est retrouvée là, à Marseille, au Canet, elle a dû se retrouver hyper loin de l'endroit où elle vivait avant. Je sais pas où c'était, mais ça fait hyper isoler des proches, tout ça, non?
Mon pote, là?
Ouais, c'est celui qui parlait à l'instant.
Ouais, il était au Pontet.
Allô?
Allô?
Ouais, encore là.
Ouais, il est là, Allô?
Oui.
Bon, monsieur,
La question, c'est pas compris.
Je disais, où est-ce que tu habitais avant de te retrouver au Ponté?
J'étais à Arles, moi. J'étais à Arles, j'ai deux adresses à Arles, tu vois. Je fais un opération aussi à Arles, avec les documents, tous. D'Allemagne, etc., avec mon Oswald. Ils sont tous savés, tu vois, monsieur, là, le jugement, là, ils sont tous savés. J'ai une maison prête en Allemagne, à Bielefeld, à Bochum. Tu vois, j'étais à l'école là-bas. Là, la juge, là, il m'a dit, Zama, que tu as fait là l'opération, après tu vas à l'école en Allemagne, on fait de la décision de plus 30 jours. C'est juste comme ça. Je suis là pour rien. En plus, c'est pas, il n'y a pas à manger, on fait le ramadan, il n'y a rien là-dedans, il y a tout dégueulasse, tu vois.
Les dépôts, ils ont repris ou pas?
Comment?
Les dépôts, c'est autorisé maintenant?
Les dépôts, c'est autorisé?
Les dépôts de nourriture, c'est autorisé à nouveau? Parce qu'ils ont interdit à un moment.
Ouais, eh ben là, ils nous autorisent, mais en bas, dès que des chips, des trucs comme ça, des gâteaux, que des trucs fermés.
Oui.
Et des fois, il y a des braves, genre, ils nous laissent, hein, et il y en a qui sont compréhensibles, là, ils sont... Ouais, voilà. Il y a des qui ont des origines maghrébines, ils sont là, ils travaillent ici, ils comprennent, hein, ils voient qu'ils ont fait le ramadan et tout. Il y en a qui autorisent, genre, comme là, ils nous ramènent des briques. L'autre fois, ils ont autorisé, mais que des briques. Pas de plats chauds. En fait, ici, on mange jamais chaud, ici. On mange que des plats froids ou des trucs sucrés, en fait. Voilà. Moi, depuis que je suis sorti de prison, j'ai pas mangé un plat chaud, ici, depuis que je suis arrivé.
C'est dur.
Je vous promets. Ah ouais. Si vous voyez la bouffe, j'ai pas eu l'occasion de vous filmer parce qu'ils nous surveillent quand on mange là-bas. Ils sont tous... On peut pas filmer comme ça devant eux, vous voyez. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo là-bas.
T'inquiète, hein. T'es pas obligé d'en faire. On te croit de toute façon sur parole, ouais, pas de problème. Ouais,
en tout cas, voilà, merci de nous avoir écoutés.
Moi j'avais une autre question, ouais. Je crois que c'est l'autre collègue qui parlait de ça, quand vous refusez l'avion, du coup il y a des risques de poursuite au pénal, non?
Ouais, quand on refuse l'avion, en fait, on a le droit de refuser, je crois, trois fois l'avion.
T'as le droit deux fois, troisième.
Après la troisième fois, quand ils font du forcing, après c'est la prison. On passe devant le juge et là, ils ont le pouvoir de nous envoyer en prison pour 3 mois ou 6 mois.
C'est ça. Et après, vous retournez en CRA à nouveau, quoi.
Hein, pardon?
Et après, du coup, les personnes, elles sont remises en CRA à nouveau, quoi. Après la prison.
Oui, après la prison, voilà. C'est toujours pareil, en fait.
C'est une boucle infernale, quoi. C'est une
boucle infernale, voilà. Moi, j'ai fait de la prison. Je suis rentré au moins trois fois en prison. Et à chaque fois, j'ai jamais obtenu un aménagement de peine, j'ai jamais eu permission de sortie. Quand on voit les SPIP à l'intérieur, ils nous disent oui, c'est bon, on pouvait poser des permissions, mais ça aboutit à rien.
Puis en fait, elle est en train de mentir parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est préparer l'envoi en centre de rétention juste derrière, quoi.
Voilà, exactement ça, voilà, c'est ça. Ils sont en train de préparer, voilà. Mmh. Et moi, je prépare tous les papiers, j'ai un hébergement, j'ai une famille, j'ai ma famille qui me soutient, vous voyez, c'est... Et malgré tout ça, ben voilà, en fait, ils nous font espérer jusqu'à la fin. Ouais. Et en plus de ça, en Algérie, ils veulent m'envoyer chez qui là-bas? Je parle même pas arabe ni rien. J'ai du mal à parler arabe.
Bah ouais, ça fait...
Bien aller, mais je connais personne. Mais...
Ça fait des décennies que tu es en France.
Ouais. Je suis venu à l'âge de 14 ans ici, donc voilà, j'étais petit. En sachant que j'ai été expulsé une fois, monsieur. Hein.
Ouais. Et que t'es revenu après.
En 2014, je suis revenu illégalement. J'ai risqué ma vie, je suis revenu en barque. La vérité, c'est j'ai vu des gens mourir en plein mer parce que il leur manquait de l'argent pour payer le passeur. Moi, alors d'aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait pour arriver vivant ici. Je vous promets. Mmh. Ouais. En plein mer, en barque, je suis revenu. Je suis resté un an là-bas en Algérie, tout seul. Voilà. J'avais que mon père qui venait me voir une fois tous les 2 mois. Voilà, pour rester un peu avec moi, me remonter le moral, parce que c'était la vérité, j'avais des tendances suicidaires, si vous voulez savoir, là-bas, parce que j'en pouvais plus.
Ah ouais, bah les gens, ils partent pas pour rien, c'est pas...
Ouais, ils partent là-bas, ils fuient la misère, ils fuient... voilà. Et franchement, c'est voilà, ça fait des années que ça dure. Moi, j'aurais bien aimé régulariser ma situation, travailler, parce que sans... Si on régularise pas notre situation, on peut pas travailler. Si on n'a pas de papier, il n'y a pas de travail. Mais moi, si je fais des bêtises, après j'ai des enfants, monsieur, je vais pas me lever tous les matins, dire à ma femme qui travaille, donne-moi de l'argent. Donc voilà, je travaillais au noir.
mais en travaillant au noir. Il y avait des contrôles de l'URSSAF, ils sont venus, une fois, ils s'est fait contrôler. Mon patron, il s'est pris une amende, et du coup, il m'a viré.
Bah ouais. Et du coup, ouais. En fait, ça pousse forcément à... En fait, c'est l'État qui crée les conditions à ce qu'on soit obligé d'être en taule et d'être expulsé, quoi. Pardon,
et après, les gens qui sont ici, je vous promets que, pas tous, mais il y a quelques-uns, il faut juste savoir leur parler. C'est des gens qui veulent travailler, c'est des gens qui veulent s'en sortir. Ils veulent aider leur famille, ils ont des enfants, ils ont une famille en Algérie, ils leur envoient de l'argent. Vous comprenez ?
Ouais, ouais. Mais quand bien même, il y en a qui n'auraient pas envie de travailler, en fait, c'est pas à l'État de décider où est-ce qu'on vit. Et en fait, les gens, ils devraient être libres de circuler, quoi.
Voilà, tous pareil, ils devraient être libres de faire le travail qu'ils veulent, même qu'ils n'ont pas de papier. Moi, je suis l'État, je leur fais ça, je leur dis, voilà, vous travaillez, il n'y a pas de souci, vous restez en France, mais s'il n'y a pas de travail, vous ne travaillez pas, vous ne montrez pas que vous voulez vous en sortir, vous repartez en Algérie.
Ouais, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que tout le monde devrait pouvoir rester, quoi qu'il arrive. Il y a des gens qui fuient des situations hardcore et qui n'ont pas forcément besoin ou de travailler ou l'envie ou la possibilité. Quoi.
C'est ça. Après, nous, voilà, nous, on veut travailler. Moi, j'ai un mec, franchement, je suis un travailleur. J'ai déjà travaillé dans ma vie. Voilà. Lui, il a travaillé en Allemagne, il a travaillé à Deco. Il a travaillé à Saint-Martin-de-Crouy. Il a travaillé dans plusieurs trucs. Quoi. Mais même il y en a ici, monsieur, ils travaillent avec... pas avec des faux papiers, mais avec... Ils sont obligés de faire des fausses identités
et ouais.
pour travailler en fait. Juste pour le bulletin de salaire et tout. Vous voyez comment ? Parce qu'il n'arrive pas, le mec, dans la situation régulière, il ne peut pas travailler.
Ouais, ouais. Ça, c'est en fait l'État qui crée les conditions elle-même de l'illégalité des gens. C'est-à-dire qu'en fait, l'État a décidé que certaines personnes devaient être dans des conditions telles que en fait, vous n'avez pas le choix de faire ça. Ouais. Et après, on dit oui, mais vous avez commis des délits, nanana. Mais en fait, les délits ont été créés par l'État lui-même. Et en fait, les gens, s'ils pouvaient s'en sortir, ils le feraient. Et en fait, s'il y a du chômage de masse, si les gens ne peuvent pas taffer, c'est pas le problème non plus que des gens, en fait.
C'est pas le problème que des gens, comme vous avez dit, exactement, monsieur. Voilà.
Là, vous êtes beaucoup en ce moment dans le centre de rétention ?
Bah oui, ici, c'est complet, il n'y a plus de place. Y en a... Ici, dans la chambre où je suis, il y a déjà un matelas par terre, dans notre chambre, encore.
Dans une chambre de deux. Ouais. Ma chambre de deux, on est quatre, là.
Dans une chambre de deux, on est quatre.
Wow. Donc il y a des matelas au sol dans le centre de rétention.
Ouais, matelas au sol, ouais.
Tu disais il y a des problèmes d'hygiène aussi, c'est ça.
Problèmes d'hygiène, je vous raconte même pas comme c'est trop sale. Les odeurs, même la nuit quand on dort, il y a des odeurs qui remontent. L'aération, les fenêtres sont fermées, on a juste un petit carré comme ça pour que l'air elle rentre. En fait, voilà. Et quand on dort, il y a des odeurs qui remontent, c'est insupportable, c'est... Soit disant, il y a des femmes de ménage qui viennent, mais qu'est-ce qu'elles font ? Vous voyez, quand on veut passer un coup de serpillière, mais à l'eau, vite fait, quoi. Ils font le couloir, et ils font pas nos chambres et tout, ils font pas les sanitaires, ils font pas ça. Ils viennent à 7h du matin. Ouais.
Et moi, j'avais une question, je crois que tu m'en avais parlé une fois au téléphone. Il y a un mitard, non ? Il y a un cachot au centre de rétention.
Il y a un cachot en bas au rez-de-chaussée, ouais.
Et les gens, ils y sont envoyés souvent ?
Ouais, quand il y en a un qui pète les plombs, genre que... Quand il y en a un qui pète les plombs, qui s'emboucane avec un flic ici, ben, ils le prennent, ils le jettent en bas. Il y en a des fois, ils le frappent et tout. Hein. Ils mettent les gants, ils le mettent dedans, ils le tabassent, ils le laissent toute la soirée dans le cachot. 5 jours, ouais.
Ça arrive souvent comme ça que les cafés soient violents ?
Pardon ?
Ça arrive souvent que les flics soient violents ?
Ouais, ça arrive. Hein. Il y a des équipes, en fait. Il y a des équipes qui sont gentilles et tout, ça va. Et après, il y a d'autres équipes, la vérité, ils sont mauvais. Hein. Franchement, ils sont mauvais. Ils parlent. Vous avez vu les gens ici, il y en a qui ne comprennent pas le français. Moi, je comprends. Hein. Je parle avec vous, je comprends très bien. J'ai été à l'école, j'ai fait mes études. Et moi, je les entends parler. Ils se moquent des gens qui sont ici. Et moi, je leur fais la réflexion. Je dis pourquoi ? Moi, je comprends. Je ne suis pas comme eux. Pourquoi vous moquez de lui ? Vous dites que c'est un sale clando, qu'il est sale, qu'il est dégueulasse, qu'il ne s'arrête pas de crier à la force et tout. Mais le gars, s'il crie, c'est qu'il a. Il a besoin de quelque chose. Il demande des choses. Vous venez pas. On vous appelle, on vous sonne à l'interphone, vous venez pas. Voilà.
Et
voilà comment on est ici, voilà.
Donc les keufs, on peut le rappeler, hein, en fait, c'est comme dans les prisons, l'État en fait, et le pouvoir de l'État, donc les keufs ou les matons. Eh ben, ils sont nécessairement violents, ils utilisent leur pouvoir à tout moment et qu'effectivement il y a des équipes qui tournent comme ça. Souvent bah, les équipes qui sont responsables du mitard en tôle ou responsables
de... Vous savez ce qu'ils font même par exemple eux, Par exemple, moi, je vais me prendre la tête avec un flic. Et le flic, il veut rien savoir. Et genre, il va m'appeler, il va me dire, viens, on va te parler et tout. Il nous ramène dans une salle là-bas. Et voilà, ça part en bagarre. Ça peut partir en bagarre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il porte plainte. Et quand c'est comme ça, on passe au tribunal et nous mettent une peine de prison et on repart en prison. Le flic, il se retrouve en enquêté. Voilà.
Et le gars, comme ça, il fait son 13e mois, lui, tranquillement.
Voilà, comme ça, voilà, vous avez tout dit. Voilà.
Voilà. Et en fait, c'est comme dehors, quoi. C'est avec les violences policières, outrage et rébellion, quoi.
Il provoque beaucoup, ici, il provoque beaucoup.
Et c'est dur. Voilà.
Ils viennent comme des G.I. Joe avec leurs gants, leurs machins. Ils viennent à plusieurs quand ils rentrent dans l'aile et tout. Genre, le premier qui bouge, on le tabasse, quoi.
Très, c'est dur.
Ouais, ouais. Voilà. Dommage, hein, y en a plein qui souhaiteraient s'exprimer, mais après, voilà, y en a pas, ils comprennent pas trop le français.
Ah non, mais y a pas de problème. On leur envoie plein de force et on pense fort à eux. On sait très bien que.
Franchement, merci beaucoup, c'est gentil.
Ouais. Vous avez des visites un peu, du soutien des proches à l'extérieur? Allô?
Ouais, je vous entends.
Je disais, vous avez du soutien de l'extérieur, un peu des proches qui vous visitent et tout?
Oui, heureusement, moi j'ai mes visites, j'ai ma famille qui vient me voir. Après, il y a des gens qui étaient là, qui sont sortis, qui viennent nous déposer des sacs et tout, vous voyez. On a des collègues qui sont sortis, mais ils ont peur de rentrer parce qu'ils n'ont pas de papier. Mais après, il y en a, ils les connaissent, ils nous posent des sacs, des gâteaux, voilà.
Trop cool.
Parce qu'ils savent qu'ils étaient ici avec nous, ils savent c'est quoi à l'intérieur, donc... Voilà, tellement ça leur fait mal au cœur, ils reviennent pour nous. Imaginez, ils étaient là, ils reviennent nous apporter des gâteaux, des... Vous voyez ?
Ouais. Ouais, moi j'avais une petite remarque à faire, mais c'est un peu de manière générale. En fait, ta situation, elle a appelé un peu à se multiplier, parce que Darmanin, là, le ministre de l'Intérieur, il est clairement dans un délire de les personnes qui sont un trouble à l'ordre public, il faut les expulser, blablabla. Et du coup, indépendamment de la situation des gens, s'ils ont vécu longtemps en France, etc. Et du coup, ça amène à des situations comme la tienne, où en fait, t'es en France depuis 22 ans, t'as dit, ou 23 ans,
23 ans.
Ouais. Et que, en fait, on va... L'État, il va t'expulser parce qu'il considère que t'es une menace à l'ordre public, alors que la menace à l'ordre public, elle a été créée par l'État lui-même, comme on expliquait, qu'en fait, c'est l'État qui empêche les gens de pouvoir vivre, tout simplement. Et du coup, en fait, l'État a créé lui-même les conditions d'un trouble à l'ordre public dans son délire, et qu'après, il va expulser les gens. En fait, c'est juste un délire raciste. L'État, il est en train de créer les conditions pour expulser plus d'étrangers. C'est juste ça, en fait.
C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. C'est ça.
Et ça, c'est la prochaine loi d'Armanin. Il veut systématiser les expulsions des personnes que l'État considère comme des menaces à l'ordre public. Et j'insiste là-dessus, parce que menace à l'ordre public, ça ne correspond à aucune catégorie juridique. Ce qui fait qu'on peut pas se défendre contre ça. En fait, c'est la préfecture qui décide, un peu comme ça, vas-y, toi, bon, t'as un casier, t'as vendu une barrette de shit devant la gare, bah ça y est, on va t'expulser. Et ça, c'est lui qui décide tout seul. Y a pas trop de recours possible. Il y a les recours administratifs, bien sûr, mais c'est pas la même chose.
Après, j'ai lu un texte de loi sur la menace à l'ordre public, un danger pour l'ordre public. Moi, j'ai lu un peu des articles, on dit que, voilà, quand on fait des choses comme ça, c'est quand on est connu pour des, on va dire, pour des trucs d'islamisme, pour des gros trafics de drogue, quoi.
Ouais, mais alors, tu vois, au début, ils ont dit ça. Et au début, ils ont dit, ouais, c'est pour les monstres qui font trop peur, nanana, les djihadistes, je sais pas quoi. Puis après, ils l'ont généralisé à un petit peu plus, genre les braqueurs et les vendeurs de drogue et je sais pas quoi. Puis après, ils l'ont généralisé, ainsi de suite. Et après, bah, ça tombe sur les gens qui conduisent sans permis parce qu'ils ont pas assez d'argent pour acheter le permis. Et que du coup, bah, comme ils doivent aller taffer, bah, ils vont au taf sans permis. Et du coup, ils sont arrêtés, et etc.
Ouais. Ah ben, c'est ça. Moi, j'ai eu que des délais routiers parce que je conduisais sans permis. Et en 2014, j'ai obtenu mon permis de conduire, tellement j'ai dit, regardez, j'ai obtenu mon permis de conduire, je suis content et tout. Et à partir de là, j'ai plus fait de bêtises ni rien, jusqu'à où que... Voilà, j'ai fini par faire des bêtises parce que voilà, j'avais pas de travail, j'avais pas de solution, je savais pas comment faire. Et voilà.
C'est normal, il faut bien survivre.
Ouais, bah oui, il faut bien survivre, hein. Mais après, moi, je suis pas content de faire des bêtises, j'aimerais bien travailler. Avoir un compte, avoir une paye comme tout le monde, vivre comme un honnête citoyen, comme tout le monde. Mais voilà, à chaque fois c'est pareil, c'est pareil. Moi,
mais t'as pas le choix, quoi.
Ouais, ouais. J'avais un titre de séjour qui était valable jusqu'en 2019. J'en ai même pas profité. Parce qu'il m'a été retiré.
Voilà. Ça fait combien de temps que t'es dans le CRA?
Ici, ça fait. Non, ça fait 15 jours. Hein.
Non, il reste 11
jours. Ouais, il me reste 11 jours pour passer devant. Voilà, il me reste 11 jours. Ça va faire 28 jours bientôt.
Ok.
Et mon pote, là, ça va faire bientôt... Il reste 5 jours pour que ça lui fait 2 mois.
Ok. Ouais. On va bientôt arriver à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter?
Des trucs à rajouter... Franchement, merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Bah, de rien.
Merci à l'association Charlie. Et franchement, merci de nous soutenir. Et ça nous fait énormément de plaisir de parler avec vous. Alors, on n'est pas tout seul, hein. Il y en a, ils sont là... Ils vous écoutent aussi, à l'haut-parleur, il y en a plein qui vous écoutent.
Des bars.
Dès qu'ils savent pas trop parler, mais ils vous écoutent, ils sont là, ils sont avec nous.
Eh bien, on vous envoie plein de force. Merci d'avoir appelé.
À tous, on espère que vous sortez bientôt, que vous ne serez pas renouvelé par le JLP.
Ouais, ouais.
Force à vous pour le
Merci beaucoup. Hein.
Oui, plein de force à vous.
Pour le ramadan
merci
aussi.
Merci beaucoup. Gentil, merci.
Allez, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Juste avant de se quitter, je voulais juste rappeler du coup que le médecin du CRA, plutôt que faire des films soi-disant engagés où il se met en valeur et il dit qu'il fait bien son taf, bah, là on l'a très bien vu, en fait il n'y a aucun soin possible en CRA et que le médecin lui-même il est responsable. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai, ils l'ont dit eux-mêmes. On peut dire aussi que on envoie un plein de force à toutes les personnes qui nous écoutent dans les autres prisons.
De ouf.
Donc, en fait, à toutes les personnes qui nous écoutent en prison. Et voilà, un grand big up aux copines Obomet, les copains Arles et ainsi de suite. On se retrouve la semaine prochaine à 19h, combien ? Je ne sais plus, 30 ?
19h30.
Ouais, 19h30, comme d'habitude.
88.4 sur Radio Galère.
Allez, ciao, ciao. Et on s'écoute l'État assassine, et il assassine de plein de manières différentes, en tôle, etc., mais aussi quand les immeubles s'effondrent.
Bisous, à la semaine prochaine.
La rythmique c'est sa route, dis-moi ta version des faits. Mais tu sais bien qui on écoute, qui sont les criminels, qui sont tous ceux qu'on enferme. L'école nous impose des modèles que la République protège. Pas de prison quand l'État assassine. On t'opprime, popopo, voilà comment la police s'exprime. Les minorités se lèvent, lançant la même sève. Les condés sont comme un gang, et il n'y a jamais de trêve. Je ne vote pas, je rappe pour les bafons, pas pour les bouffons. Mon cul n'est pas à vendre, remballe tes bifons. La tôle déborde de gosses des classes populaires. Pas de crédit, pas d'homme d'affaires, je parle même pas des parlementaires. On nous reproche de semer la panique d'après le ministre. Attaque terroriste quand la jeunesse excite. La décision justice est politique, élitiste. Leur monde est sinistre, putain d'État assassine. L'État assassine, je parle à ta maestive. Big bomb, la police est comme un gang.
Je prends la lance dans le bonheur, je prends tes canettes dans le bonheur. Big bang, pas sur la vie à gagne.
L'État assassine, si t'es des réminitimes. Big bomb, la police est comme un gang.
Je prends la lance dans le bonheur.
Le tribunal judiciaire en toute partialité déclare devant la famille en pleurs, devant l'huissier, que le jeune homme a résisté. C'est peut-être même mérité, l'accident regretté. Gendarme est acquitté, tout ça c'est fini. Le peuple demande des comptes, bavure policière à l'infini. Votre palmarès n'a pas de limite, il frappe jeunes vieux, pères et mères anxieux. Toujours légitime, il frappe féroce et vicieux. Vous demandez qu'on respecte l'état policier. Vous dites que tous les flics sont pas mauvais, que sans les keufs ça serait le merdier. Mais je suis pas naïf, c'est pas le premier chapitre. Le business d'affaires prospère pendant qu'ils répriment les manifs. Dans le couloir du ministère on parle des vidéos. Faut passer des appels, activer les réseaux, tout est ficelé. La méthode répétée, demain la version officielle sera matraquée dans les infos.
L'état assassine, je parle à ta maestive.